où on vient d'entendre une magnifique chanson des plus exotiques, Soul of Morocco, interprétée par Roum, en hommage à la ville de Mahib El Ghislan et son festival Taragalt des musiques du désert et du monde. Alors, ça fait rêver. Le vidéo se déroule en plein désert. C'est beau à voir. La chanteuse est magnifique et le sable, ça nous aime. Et bon, le sable est omniprésent dans cette vidéo. Le sable qui inspire grandement notre prochaine invitée du jour, en fait, l'artiste émergent Alexis Vanasse, résident et œuvrant à Québec. Il vient tout juste de terminer un baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval. Je crois que c'est avant-hier qu'il a terminé, mais on félicite l'artiste. Cet artiste, donc, qualifié, l'artiste émergent, qualifié de multidisciplinaire, qui se donne à la sculpture, l'installation, la photographie, le vidéo, la poésie. Il en est à son deuxième solo avec une exposition en cours au lieu de diffusion Projet Casa jusqu'au 30 avril. Et en 2022, je pense qu'il a présenté une partie de cette exposition-là à Projet Casa à Toronto, à la Maytons Gallery. Et la série, et ce qu'il a présenté, c'est la série d'œuvres « La tulipe est ostensible et l'artiste trivial », quel titre vraiment énigmatique et à souhait. La recherche de l'artiste, donc, porte sur différents aspects et dont on va, sur lesquels on va s'entretenir. Je suis absolument ravie de le joindre à Québec. Bienvenue, Alexis Vanasse. Très bienvenue. Bienvenue.
Bonjour, Chantal. Merci beaucoup pour l'invitation.
Quel plaisir. Si vous nous présentiez d'abord, avant qu'on parle de vos séries d'œuvres qui sont très intéressantes, écoutez, moi, c'est une magnifique exposition qui est en cours à Projet Casa. Si vous nous présentiez d'abord un petit peu quelques-uns, on ne pourra peut-être pas faire le tour, quelques-uns de vos sujets de recherche, hein, matériels, conceptuels, quelques pistes. Merci.
Oui, tu as déjà bien résumé en général les mots, ce que tu as nommé, Chantal.
Ah, ça fait plaisir.
Beaucoup sur ma pratique et sur mes recherches visuelles. Je dirais que le filon, ce qui rassemble beaucoup mes deux projets, malgré le fait qu'ils soient assez distincts visuellement, je dirais que l'idée, toute la notion de la trace, de l'empreinte, ce qui voyage à travers le temps, ce qui témoigne d'une certaine survivance,
oui.
Des iconographies, c'est quelque chose qui anime beaucoup mes deux projets. Autant dans le projet de Sketcher, où on voit différents témoins de différents sens qui sont rejoints à travers la sculpture, l'image et tout ça. Donc, c'est déjà de rejoindre ce qui est pas, de connecter ce qui est normalement imperceptible à ce qui est perceptible.
Oui.
C'est quelque chose qu'on peut voir dans l'usage de la bioimagerie. Dans certains cas, j'utilise des œuvres obtenues par résonance magnétique.
Oui.
Et ces images-là documentent les effets de la perception et de la production de la parole. Donc, dans The Sketcher, il y a beaucoup cette idée-là de ce qui valide la pratique de l'artiste, mais aussi ce qui valide l'artiste lui-même.
Oui, parce que
cette relation entre le savoir, l'image, l'empreinte, l'imaginaire collectif.
C'est tout un univers que vous explorez, vraiment, je vous félicite, et vous intéressez particulièrement, ce que je trouve particulièrement intéressant, vous vous intéressez aux identités multiples de l'artiste, hein, définies par rapport à la pratique, le savoir, le matériel, l'immatériel, si vous nous expliquez un peu plus.
Dans certains cas, j'utilise des images qui sont tirées du courant romantique. Le courant romantique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'image était une façon d'accéder à Dieu. Donc, c'est toute cette idée-là d'accéder à quelque chose de matériel pour créer un lien avec ce qui est immatériel, ce qui est comme ce qui peut sembler omniprésent. Bon, j'ai pas une pratique mystique, je veux pas qu'on se trompe, mais c'est beaucoup cette idée-là de ce qui peut. Je me posais beaucoup de questions dans mon baccalauréat. J'ai d'abord débuté à Concordia.
Oui.
Terminé mon bac à l'Université Laval. Et c'est deux formes de pensée très, très différentes. Et j'étais beaucoup dans ce questionnement-là, un peu identitaire, où est-ce que je me retrouve entre. Comment trouver cet équilibre-là entre mon discours, ce qui appuie là, et ce qui témoigne de la présence de mon travail physique. Puis j'aime beaucoup m'approprier ce savoir-là, certaines recherches scientifiques-là. Ben c'était un peu une façon de démocratiser ou de me permettre aussi comment je pourrais dire, désolé, je manque les mots, je suis un peu fébrile quand c'est des entrevues.
Oh non, mais c'est l'aboutissement de plusieurs questionnements finalement qu'on peut voir sur place à la galerie Projet Casa, puis vous vous intéressez aussi beaucoup à la transformation de l'art. En tout cas, c'est très intéressant. Ça nous amène à parler de votre première série d'œuvres, hein. Vous en avez glissé mot tout à l'heure, là. Écoutez, elle est magnifique. Évidemment, on ne peut que faire l'association avec le désert quand on voit ces œuvres. Dost Kacar, ça nous vient automatiquement, c'est sûr. C'est toute l'histoire, le désert, la naissance, le berceau de la civilisation. Vos œuvres vont émerger de une libre association d'images. Mais probablement que vous étiez plus dans un questionnement en lien avec vos recherches. Si vous nous parliez un petit peu de la réalisation de vos œuvres, écoutez, c'est beaucoup de travail. Si vous nous décriviez un peu visuellement vos œuvres de cette série, Dutch Kacar.
Dans le cas de Dutch Kacar, en fait, c'est un projet qui est devenu une situ à travers le temps, parce qu'au début,
oui,
c'est des œuvres qui sont agglomérées, qui agglomèrent différents phénomènes, différents processus, mais l'ensemble du projet aussi agglomère différents projets. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par créer mes œuvres de papier.
Oui.
Je fais moi-même mon papier durant l'été, donc c'est un peu un rituel saisonnier, là. Étant donné que je fais mes feuilles à l'extérieur, je les laisse sécher à l'extérieur.
Oui, très intéressant.
Enfin, des petits insectes qui s'agglomèrent, qui s'ajoutent à la matière, au médium que je finis par sculpter en bas-relief.
C'est ça. Vous sculptez en bas-relief une accumulation de papier, hein?
Exactement, c'est une accumulation de papier que j'ai ensuite taillé au ciseau. C'est très laborieux comme travail, c'est très très long de faire de créer la matière, de la découper à la main, puis après ça de créer cet effet-là de superposition pour ensuite créer le bas-relief.
C'est quelque chose.
Dans les débuts, c'était beaucoup, ça s'exprimait surtout à travers une poésie lyrique et anecdotique, donc je prenais plaisir aussi, c'est... J'avais surtout envie de savoir comment les gens allaient percevoir ça. Donc, il y a comme le phénomène de la pari-odile. J'espère que je prononce bien. Je pense qu'à chaque fois, j'ai tout un petit crainte de mal le prononcer, ce mot-là. Mais puis après ça, il y a le projet Boîte Noire, qui est un projet poétique que j'ai entamé un peu plus tard dans ma session.
Mais avant qu'on parle de Boîte Noire, là, dans votre série d'œuvres Dutch Kacar, vous vous intéressez beaucoup à un matériau qui est pas souvent utilisé, hein. Vous utilisez beaucoup la poussière de matériaux friables comme le papier, le bois.
Oui, exactement. Parlez-nous de cette étude. De bois, c'est venu au moment où je sculptais tout bonnement une sculpture en bois. Puis, en travaillant, forcément, il y avait la poussière qui s'accumulait au sol. Puis, ça témoignait aussi, ça laissait des traces et des empreintes de mon travail. Donc, je vois beaucoup mes œuvres comme des agents, des documents ou des archives, en fait, de mes processus créatifs. Et puis, je trouve ça important aussi, vu que c'est un projet installatif in situ, c'est dans le fait d'en disposer sur le sol, eh bien, c'est ça permet cette continuité-là, ça permet au projet de se régénérer, étant donné que je vais utiliser les traces laissées par le public. Je vais les réutiliser pour créer d'autres compositions par la suite.
Alors, c'est très exploratoire. Je vous félicite. Et dès l'entrée à Projet Casa, à la gauche, on a une œuvre d'ampleur qui est d'une grande esthétique. Je vous félicite. Et accompagnée de son sable.
Oui, effectivement. C'est ça. Donc, le sable, éventuellement, je vais, à la toute fin de l'exposition, je vais me représenter sur les lieux et documenter les traces qui y sont laissées. Puis, j'aime l'idée aussi que que l'installation change au gré du temps, qu'elle laisse un peu son autonomie d'une certaine façon, et mon utilisation des images aussi, de la photographie pour accentuer les traits architecturaux aussi. Il y a quelque chose qui est beaucoup de l'ordre de la coopération, mais aussi d'une certaine résilience aussi. Donc, c'est important. Oui, l'artiste a un travail dans sa pratique, mais c'est important de rester à l'écoute aussi de ce qui peut intervenir puis ce qui peut influencer le travail, parce que ça fait penser à une phrase que Philippe Gagnon, un artiste de Québec, avait dit. Une exposition solo, techniquement, c'est dur de dire que ça... J'ai la misère aussi. Une exposition solo, ça n'existe jamais complètement, étant donné qu'il y a tellement de facteurs, tellement d'influences qui vont... concrétiser le travail et aussi le chambouler, forcément. Donc, on a toujours des idées, mais c'est pour en déroger aussi. Puis, encore une fois, le projet de Sketcha, c'est comme plusieurs projets imbriqués dans un seul projet. Donc, c'est très processuel.
Oui, et ce que vous nous dites là, c'est que ça prend une bonne dose d'humilité pour faire un solo, finalement.
Oui, de fierté aussi. De reconnaissance. Paul et Daniel sont des gens extraordinaires. Oui. Et puis, j'ai pu travailler de concert aussi avec la commissaire Catherine Saint-Onge-Paquin. C'était vraiment un privilège de travailler avec eux. Ils m'ont accueilli à bras ouverts.
Et qu'ils ont, comme mandat de...
Cette occasion-là d'avoir une exposition solo à Casa, c'est absolument incroyable. Là,
et ils ont comme mandat de soutenir la relève. Alors, félicitations aux propriétaires de ce lieu de diffusion vraiment spécial et à part unique. Alors, si vous parlez maintenant de votre série d'œuvres très ludiques, de nature morte, très particulière, haute en couleur, en fantaisie, la tulipe est ostensible et l'artiste trivial.
Oui, c'est un projet qui est, effectivement, tu l'as dit, assez ludique. Oui. Assez énigmatique. Et c'est on est encore ici dans l'idée de la trace et de l'empreinte. Un peu plus dans la biographie de l'objet, mais tout de même, il y a toutes ces je suis intéressé par le potentiel narratif.
Oui, d'objets.
Donné par l'objet spéculatif, c'est-à-dire que les objets ont leur symbolique, ils ont une certaine iconographie aussi. Il y a certains objets qui datent de la Première Guerre mondiale, d'autres de la Seconde Guerre mondiale.
Des objets kitsch.
D'autres objets que je ne connais absolument pas et dont je ne connais pas l'origine. Et encore une fois, je pense que je perçois vraiment l'objet comme un vocabulaire populaire.
Et ça stimule la juxtaposition de différents objets dont certains sont kitsch ou énigmatiques, ça stimule beaucoup l'imaginaire.
Oui, clairement. Ça stimule beaucoup l'imaginaire, puis je pense qu'il y a encore une fois cette force-là de créer des rencontres puis de générer des discussions qui sont formateurs et qui sont nourrissantes, tu sais, pour ma pratique. Tu sais, je veux surtout pas créer des œuvres, des objets, puis juste me dire que je les ai faites tout simplement et c'est tout. Donc, moi, c'est vraiment important pour moi de entrer en contact avec les gens, de connaître leur perception et puis par la suite connaître un peu plus ces objets-là aussi, parce que de savoir comment elles ont été détournées aussi par rapport à la valeur qu'on leur attribuait et la valeur qu'on leur attribue aujourd'hui. Et ça va dans le même sens aussi par rapport à leur symbolique. Donc, ça me fascine beaucoup aussi.
Oui, ce sont des œuvres, c'est ça, comme je mentionnais, hautes en couleur. Ces associations introduisent une certaine forme d'humour. Alors, c'est bien agréable. La visite est agréable. Il y aurait beaucoup à dire, Alexis Vanasse, il y aurait beaucoup à dire vraiment sur... encore, j'aurais bien d'autres questions, mais le temps file, malheureusement. On va devoir... puis, il y a aussi des magnifiques sculptures de bois. Alors, j'aurais encore bien des questions à vous poser, mais le temps file. En terminant, Alexis Vanasse, vous étiez à l'ouverture de la Foire plurale et vous êtes, on peut peut-être le dire, le frère de la porte-parole Karine Vanasse. Quelle a été votre expérience de la foire? Dans quel but vous êtes allé à la foire plurale? Oui.
C'est sûr que le but d'abord est de tisser des liens avec mes confrères, mes consoeurs.
Oui.
Et cette année, c'était vraiment j'ai vraiment senti qu'il y avait des beaux échanges. Je pense qu'il y avait beaucoup de... toutes les félicitations qu'on pouvait se donner, autant même si je ne présentais pas d'œuvre là-bas, je partageais vraiment des beaux moments avec ceux et celles qui avaient le mérite de présenter leur travail. Puis c'est toujours une expérience enrichissante. Puis en tant que jeune artiste, ça peut être intimidant, mais quand on tisse ces liens-là qui sont précieux avec nos pères, ben ça fait toute la différence. Puis j'ai eu droit de merveilleux échanges.
Oui, et puis vous êtes bien sûr un artiste qui éventuellement souhaiteriez être présenté par une galerie. Alors c'est d'importance d'aller visiter les foires, hein, particulièrement la foire plurale.
Exactement, et parce même, que bon, oui. Si on finit un bac, on peut facilement se retrouver devant
un
plus vaste, on ne sait pas trop quoi faire, donc c'est important d'entamer ces démarches.
Alors, merci beaucoup, Alexis Vanas. C'est tout le temps dont on dispose, encore une fois. Le temps file très rapidement à la radio. Merci beaucoup de cet agréable échange depuis Québec. Merci encore. Bonne continuation. Une visite, une exposition à voir d'ici le 30 avril à Projet Casa. Et le titre de votre exposition, c'est?
Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Donc, le titre,
Nos empreintes lointaines.
Nos empreintes lointaines. Et le finissage est le 30 avril.
Merci beaucoup. Finissage le 30 avril. Merci. Bonne fin de semaine.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.